Lizzie présente L'économie pour les nuls en 50 notions clés de Michel Musolino, lu par François Hatt avec la participation d'Odile Cohen.
Introduction.
L'économie est une discipline particulière. Elle est un peu comme la médecine. Elle concerne tout le monde, mais n'est accessible qu'à quelques-uns. Et les spécialistes de l'économie sont comme les médecins de Molière, qui nous font croire que les ressorts de notre machine sont des mystères. L'économie est parfois difficile. Mais c'est surtout une discipline vivante et passionnante. Les spécialistes, malheureusement, ne font rien pour en faciliter l'accès. Vocabulaire ésotérique, syntaxe nébuleuse et un zeste de mépris pour le profane. Cet ouvrage est construit sur un pari. Explorer l'économie sans tomber dans la sécheresse d'un manuel ni dans le galimatias savant. Nous sommes partis de mots que l'on entend prononcer quotidiennement et avons essayé de décrypter les réalités qu'ils cachent, mais aussi les doutes et les débats qu'ils suscitent. Nous ne nous intéressons qu'à la réalité et ne faisons appel à la théorie que lorsqu'elle est capable de l'éclairer. Si, par moments, le jeu devient un peu plus serré, c'est que le problème est réellement ardu. Mais avec un peu de persévérance, tout honnête homme peut y arriver. Comme le dit un vieil adage, pour comprendre le lien, il faut défaire le nœud.
Notion 1, triple A, agence de notation.
Les agences de notation sont des entreprises privées chargées d'évaluer le risque lié à la souscription d'un emprunt privé ou public. Elles portent un jugement sur la qualité d'une dette et notamment sur la capacité du débiteur à la rembourser. Elles sont, depuis la crise de 2007, au cœur d'innombrables controverses.
Les Big Three, la notation et le financement.
Les agences de notation existent depuis les années 20 et sont très nombreuses. Mais trois d'entre elles se sont imposées et dominent aujourd'hui le marché. Moody's, Standard & Poor's, S&P et Fitch. Les deux premières représentent à elles seules plus de 85% du marché mondial de la notation. Standard & Poor's appartient au groupe d'édition McGraw-Hill, qui possède de nombreux médias, Business Week. Moody's a parmi ses actionnaires Warren Buffett et Fitch compte parmi les siens Hearst et le français Ladret de la Charrière. Les notations des agences sont effectuées à la demande des émetteurs d'emprunts et à leurs frais. Cela peut paraître étonnant, mais sans cette notation, les produits trouveraient difficilement preneur. Le coût est conséquent et l'activité est extrêmement rentable. La marge brute des agences est estimée entre 30 et 40% du chiffre d'affaires. Celui de Standard & Poor's dépasse le milliard de dollars. En ce qui concerne la notation des dettes publiques, celle-ci est réalisée sans la demande des États. Si ces derniers s'y soumettent, c'est sous la pression des banques qui, dans le passé, leur proposaient des taux plus intéressants. Les notes vont de AAA, triple A, pour les titres les plus sûrs, à D, défaut de paiement constaté ou imminent, selon les agences, chacune ayant sa notation. La notation des dettes souveraines, c'est-à-dire des États, n'est pas seulement technique. Elle comporte inévitablement un jugement des politiques menées et elle a une conséquence directe sur les taux d'intérêt que les pays doivent payer. Les difficultés des pays sont ainsi aggravées. Il en résulte que les agences de notation ont un impact procyclique, Quand tout va bien, elles peuvent alimenter un optimisme exagéré. Quand les choses vont mal, elles peuvent dramatiser ultérieurement la situation.
Erreur et controverse.
L'histoire récente est ponctuée d'erreurs de notation. Ainsi, Enron, 2001, et Parmalat, 2003, étaient des entreprises bien notées peu de temps avant de faire faillite. Les agences se sont défendues en disant que les comptes étaient truqués. La crise de 2007 a fait éclater au grand jour le problème de la fiabilité des notations. D'innombrables produits structurés étaient notés triple A. Le déclassement de pays de tout premier plan, comme les États-Unis ou la France, qui ont perdu leur triple A, ou de pays en difficulté comme la Grèce ou l'Italie, a provoqué de vives réactions, y compris celles du Vatican. On accuse les agences d'être devenues particulièrement prudentes après les légèretés du passé et de mettre les pays en sérieuse difficulté au nom d'une prétendue impartialité qui bafoue la souveraineté des États. La prudence n'évite pas les boulettes. Ainsi, en août 2011, Standard & Poor's a dégradé la note américaine après avoir commis une erreur de 2 000 milliards de dollars sur la dette américaine. En novembre de la même année, la même agence diffuse la nouvelle de la dégradation de la France à la suite d'une erreur technique. Le Parlement européen a édicté en 2013 de nouvelles règles. Limitation des notations des États à 3 par an, contrôle d'éventuels conflits d'intérêts et création d'un régime de responsabilité civile pour les agences de notation qui devront rendre compte de leurs erreurs. En attendant, les bévues des agences ne leur ont coûté que quelques amendes et quelques démissions. Elles ont toujours la part belle dans l'estimation des risques, puisque les accords de Bâle II ont affirmé le rôle de leur notation dans la politique prudentielle des banques.
L'essentiel en 5 secondes. 1. Les agences de notation sont chargées de juger la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. 2. Une mauvaise notation provoque une augmentation du taux d'intérêt et donc le coût de l'emprunt. 3. Le fait qu'elles puissent noter les États pose le problème de leur légitimité. Notion 2. Anticipation rationnelle.
L'idée que les agents économiques fondent leurs décisions sur leurs prévisions de l'avenir semble évidente. Pourtant, jusqu'à Keynes, les anticipations n'ont pas été prises en compte de manière centrale par les économistes. Keynes les introduit d'abord avec le concept de « demande effective », appellation malheureuse, car elle signifie en réalité « demande anticipée ». Keynes bouleverse ainsi la vision traditionnelle du marché du travail. Selon les classiques, l'emploi dépend du niveau des salaires, les entreprises embauchant plus lorsque les salaires sont bas. Keynes montre qu'un niveau bas de salaire ne suffit pas à provoquer l'embauche. Celle-ci dépend des prévisions des entreprises sur leurs ventes futures. Or, celles-ci seront d'autant plus faibles que les salaires sont bas. Les anticipations des entrepreneurs sont-elles rationnelles? Keynes en doute fortement. S'agissant de l'investissement, il souligne le rôle des esprits animaux, animal spirit, et du tempérament sanguin des entrepreneurs qui prend le dessus sur le calcul. Le calcul exact des bénéfices escomptés joue un rôle à peine plus grand que dans une expédition au pôle sud.